Une audience de collimateur avait lieu au Conseil de défense planétaire des Nations Unies autour du programme d'essai de bombes à hydrogène de puissance stellaire. Les avancées technologiques majeures de ces 10 dernières années dans le domaine des supercalculateurs avaient permis de réaliser un modèle théorique d'explosion nucléaire stellaire. On pourrait donc bientôt commencer à travailler sur un modèle de bombe à hydrogène stellaire. On estimait la puissance de cette bombe à 350 mégatonnes de TNT, soit environ 6 fois plus que la plus grande bombe H jamais créée par l'homme. Il n'était pas envisageable de procéder aux essais de cette superbombe dans l'atmosphère. Quant aux essais dans un puits souterrain, celui-ci devait être suffisamment profond pour éviter que la roche ne soit expulsée lors de l'explosion. Cependant, même dans des puits ultra profonds, les ondes de choc provoquées par la détonation risquaient de se propager à l'échelle du globe et d'avoir des répercussions imprévisibles sur de vastes structures géologiques, entraînant des catastrophes telles que des séismes et des tsunamis. Par conséquent, la bombe à hydrogène stellaire ne pouvait être testée que dans l'espace. C'était toutefois impossible à une orbite terrestre haute, car les impulsions électromagnétiques générées par la bombe auraient eu des effets funestes sur les systèmes électriques et de communication de la planète. Le lieu idéal pour conduire ces essais était donc à la surface de la face cachée de la Lune. Mais Ray Diaz proposa un choix alternatif. « J'ai décidé de procéder aux essais sur Mercure », annonça Ray Diaz. Cette proposition surprit les participants, qui l'interrogèrent dans un brouhaha sur les raisons de ce choix. Conformément aux principes de base du programme collimateur, je n'ai pas besoin de m'expliquer, répondit froidement Ray Diaz. Les essais devront avoir lieu dans des puits d'essais souterrains qu'il faudra creuser dans le sol mercurien.
Nous pourrions éventuellement considérer de mener des essais à la surface de Mercure, dit le représentant russe, mais forer des puits d'essais représenterait un investissement beaucoup trop lourd. Cela coûterait 100 fois plus cher que de le faire sur Terre. Et puis, à quoi bon se préoccuper des effets néfastes de l'explosion sur l'environnement mercurien?
Mais il n'est pas non plus possible de réaliser des essais à la surface de Mercure, s'insurgea le représentant américain. Ray Diaz est le collimateur ayant jusqu'à aujourd'hui épuisé le plus de ressources. Il est maintenant temps de l'arrêter.
Cette intervention reçut le soutien des représentants britanniques, français et allemands. Ray Diaz reprit la parole, un sourire aux lèvres.
« Même si je dépensais aussi peu de ressources que le docteur Luoji, vous seriez tout aussi prompt à vous opposer à mon projet. »
Il s'adressa au président tournant du CDP.
« Je demande l'attention de Monsieur le Président et de Mesdames et Messieurs les représentants. Parmi tous les plans de collimateur proposés à ce jour, le mien est celui qui est le plus en accord avec le programme général de défense planétaire. Vous pouvez tout à fait considérer que mon projet en fait partie. Les ressources qu'il faudra mobiliser paraissent colossales, mais une grande partie se superpose à celle que devra tôt ou tard engager le programme général. »
Le représentant britannique lui coupa la parole.
« Expliquez-nous au moins pourquoi vous voulez mener vos essais dans le sous-sol de Mercure. À part chercher un prétexte pour nous faire perdre plus d'argent, je ne vois pas bien. »
« Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants, » contre-attaqua Ray Diaz, mais toujours avec calme, « vous avez dû remarquer que le CDP a déjà perdu le respect le plus fondamental envers les collimateurs et les principes du programme les concernant. Si nous devons exposer tous les détails de nos plans, ce programme a-t-il encore un sens ?»
Un à un, il toisa d'un regard bouillant et méprisant les représentants de chaque nation, les forçant à regarder dans une autre direction. Puis il poursuivit.
« Mais soit, j'accepte de répondre à la question qui m'est posée. Le but de ces essais souterrains est de creuser un immense cratère à la surface de Mercure pour y établir la base mercurienne. Vous noterez que cela représente pour le programme général de défense un gain d'argent inestimable. »
L'explication de Ray Diaz suscita quelques murmures, puis un représentant demanda.
« Collimateur Ray Diaz, vous voulez dire que vous projetez de faire de Mercure une base de lancement de bombes à hydrogène stellaire ?»«
Oui, » répondit-il d'un ton assuré.
Les théories stratégiques actuelles du programme général de défense reposent sur l'idée que le système de défense doit se concentrer prioritairement sur les planètes supérieures. En cela, elle néglige les planètes inférieures, leur attribuant un rôle insignifiant. La base mercurienne que je propose de créer pourrait être un moyen de combler cette faiblesse. Il a peur du soleil et le voilà qui veut s'installer sur la planète du système la plus proche de lui. N'est-ce pas prodigieux ?
Se moqua le représentant américain, arrachant quelques rires à certains de ses confrères. Mais il fut aussitôt recadré par le président.
« Ce n'est rien, monsieur le président. Je suis déjà accoutumé à ces marques d'irrespect. Je m'y étais habitué bien avant de devenir colmateur, » fit Reidias en secouant la main. « Mais que chacun respecte au moins les faits. Quand les planètes supérieures et la Terre seront tombées, la base mercurienne sera le dernier bastion de l'humanité. Dos au soleil, sous la protection de ses rayons radioactifs, elle deviendra le poste avancé le plus coriace.
Colmateur Reidias, à vous entendre parler, on pourrait croire que le sens de votre plan est d'organiser un dernier baroud d'honneur à l'heure où l'humanité aura perdu. Mais quand on y pense, cela colle tout à fait avec votre personnalité, » cracha la représentante française.
« Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas purement et simplement exclure de réfléchir à la dernière résistance, » rétorqua gravement Reidias.
« Très bien, colmateur Reidias, » reprit le président. « À présent, êtes-vous en mesure de nous indiquer le nombre de bombes à hydrogène stellaire dont vous aurez besoin pour votre plan ?»«
Le plus possible. Il faut en produire autant que les capacités de la planète pourront le permettre. » De leur nombre dépendra leur puissance. Selon les standards actuels, rien que pour la première partie du plan, il en faudrait 1 million, au bas mot.
Ce fut une explosion de rire dans la salle d'audience.
Il semblerait que le colmateur Reidias ne veuille pas seulement fabriquer un petit soleil, mais une vraie galaxie,
s'esclaffa le représentant américain. Puis il se tourna vers le Vénézuélien.
« Vous croyez donc vraiment que tout le protium, le deutérium et le tritium des océans n'existent que pour servir vos plans ? Avec une telle obsession, la Terre tout entière finira bientôt par devenir une usine de production de bombes à hydrogène. »
Reidias était à cet instant le seul membre de l'Assemblée à conserver une mine sérieuse. Il attendit tranquillement que le silence se fasse avant de prononcer en articulant chacun de ses mots.
« Nous parlons de l'ultime bataille de l'espèce humaine. » Le nombre de bombes que je réclame n'est pas si élevé. Néanmoins, j'avais prévu l'issue de cette audience, mais je continuerai, je construirai des bombes, autant qu'il me sera permis d'en construire. Je le dis devant vous, je ne cesserai pas mes efforts.
Seules deux couleurs étaient visibles sur Mercure, le noir et l'or. Le noir, c'était la couleur du sol de la planète. Sa faible réflectivité, en dépit de la proximité des rayons ardents du soleil, signifiait que ce noir était permanent. L'or, c'était le soleil, car dans ce monde où l'astre occupait une grande partie du ciel, on pouvait distinguer les vagues de cet océan de feu. On y voyait flotter les taches solaires comme des nuages, et à ses marges, on pouvait admirer le balai gracieux des protubérances solaires. Et sur ce gros caillou suspendu au sommet de cette mer de flammes, les hommes firent pousser un autre petit soleil. Après la construction des ascenseurs spatiaux, les humains avaient commencé une exploration de grande envergure du système solaire. Des avions spatiaux transportaient des hommes sur Mars ou sur les lunes de Jupiter sans que ces exploits ne suscitent aucune émotion, car les hommes savaient désormais que l'objectif de ces excursions était bien plus clair et pragmatique que dans le passé. L'humanité commençait simplement à établir des bases de défense un peu partout dans le système solaire. Ces expéditions à bord de fusées à propulsion chimique traditionnelle ou d'avions spatiaux ne constituaient qu'une étape insignifiante pour atteindre cet objectif. Les premières explorations se concentraient principalement sur les planètes supérieures, mais à mesure que s'élargissaient les théories sur la guerre spatiale, les planètes inférieures, jusque-là négligées, suscitèrent un nouvel intérêt. Aussi, les missions d'exploration sur Vénus et Mercure s'intensifièrent, et ce fut une des raisons pour lesquelles le plan du colmateur Reidias de créer sur Mercure une base d'essai de bombes à hydrogène stellaire fut, bon gré mal gré, ratifié par le Conseil de défense planétaire. Le forage d'un puits d'essai sur Mercure fut le premier grand chantier lancé par l'humanité sur une autre planète du système solaire. Les travaux pouvant seulement être menés pendant la nuit de 88 jours terrestres de Mercure, le chantier devait s'étaler sur 3 ans. mais on ne creusa finalement que l'équivalent d'un tiers de la profondeur prévue. Plus bas, on était tombé sur une strate extraordinairement dure composée d'un mélange de métal et de roche. Continuer le forage aurait non seulement ralenti la progression, mais aussi demandé d'énormes investissements. On convint donc d'arrêter là le chantier. En procédant à un essai à cette profondeur, les roches alentour risquaient sans doute d'être expulsées et de laisser place à un grand cratère. Cela équivalait finalement à mener un essai en atmosphère. En raison des perturbations aléatoires dans les roches souterraines, il était de toute façon plus difficile d'étudier la puissance des bombes que si l'essai avait lieu à la surface. Toutefois, Reidia soutint que le cratère, une fois recouvert d'un dôme, pourrait servir de base de défense, et il insista pour que le premier essai fût conduit à la profondeur déjà creusée. L'opération eut lieu à l'aube. Le lever de soleil sur Mercure durait depuis plus de 10 heures et une légère clarté venait seulement de poindre à l'horizon. Quand le compte à rebours de la détonation eut passé zéro, des ondes toroïdales se propagèrent depuis l'épicentre de l'explosion. En un instant, la Terre de Mercure devint aussi suave que du satin et, très vite, apparut au cœur de l'explosion une montagne qui s'éleva lentement, comme le dos d'un géant réveillé. Quand le pic eut atteint 3 000 mètres environ, la montagne s'ouvrit et quelques centaines de millions de tonnes de terre et de roches furent projetées dans les airs. Le sol fut pris de furieuses convulsions. La croûte mercurienne se souleva et les rayons de la boule de feu nucléaire jaillirent pour illuminer la terre et la roche éjectée dans les airs, dessinant un majestueux feu d'artifice dans le ciel encore sombre de Mercure. La boule de feu brûla environ 5 minutes avant de s'éteindre, tandis que des fragments de roche continuaient à retomber confusément sous la lueur du halo nucléaire. Une dizaine d'heures après la fin de l'explosion, les observateurs remarquèrent qu'un anneau était apparu autour de Mercure, car une bonne partie des roches expulsées avait atteint la première vitesse cosmique et était devenue d'innombrables satellites aux formes irrégulières. Dispersés en orbite, ces objets rocheux faisaient maintenant de Mercure la première planète tellurique possédant un anneau. Celui-ci était très fin et chatoyait sous les puissants rayons solaires, si bien que la planète donnait l'impression d'avoir été entourée au surligneur. D'autres morceaux de roche gagnèrent même la vitesse de libération et quittèrent définitivement Mercure pour devenir des satellites du Soleil, formant une petite ceinture d'astéroïdes épars en orbite. Ce fut depuis sa base souterraine que Ray Diaz assista à la retransmission de l'essai de la bombe à hydrogène stellaire sur Mercure. Ce n'était en réalité pas vraiment en temps réel, car l'image arrivait sur Terre avec un décalage de 7 minutes. Lorsque l'explosion fut terminée, et tandis que la pluie de roche continuait à tomber après l'extinction de la boule de feu, Ray Diaz reçut un coup de téléphone du président tournant du CDP, lui indiquant que la puissance phénoménale de la bombe avait fait une profonde impression sur les responsables du programme général de défense. Les représentants des nations permanentes du CDP souhaitaient programmer au plus vite une nouvelle audience pour discuter de la fabrication et du déploiement de ces bombes. Le président précisa que le nombre de bombes exigées par Ray Diaz ne pourrait pas être atteint, mais que tous les pays avaient cependant exprimé un vif intérêt pour la production de cette arme. Si Ray Diaz avait choisi une base souterraine, ce n'était pas tant en considération de sa sécurité qu'en raison de son héliophobie. Cet environnement sombre et clos, loin des rayons du soleil, lui était plus agréable. L'essai sur Mercure s'était achevé depuis plus de 10 heures. Alors que Ray Diaz regardait scintiller le nouvel anneau de Mercure sur son écran de télévision, une sentinelle sonna à l'interphone pour l'informer que le psychologue qu'il avait demandé était arrivé.
« Je n'ai jamais pris de rendez-vous avec un psychologue, faites-le partir !»
beugla Ray Diaz en colère, comme s'il venait de subir une terrible humiliation.
« Ne réagissez pas ainsi, monsieur Ray Diaz !»
résonna une aimable voix dans l'interphone et qui appartenait de toute évidence au visiteur.
« Je peux vous permettre de revoir le soleil. »«
Foutez-le dehors !»
cria Ray Diaz, puis il changea immédiatement d'avis.
« Ou plutôt, non, saisissez cet imbécile et vérifiez son identité !»«
Car je connais la cause de votre maladie !»
continua la voix sur un même ton tranquille.
Veuillez me croire, monsieur Rey Diaz, nous sommes les deux seuls individus de ce monde à la connaître. »
Cette phrase mit soudain Rey Diaz en alerte. Il répondit aussitôt. « Laissez-le entrer !» Il se passa alors quelques secondes pendant lesquelles son regard se perdit au plafond. Il se leva lentement, attrapa une cravate sur son canapé en désordre, puis changea d'avis et la jeta aussitôt. Il se rendit devant son miroir, arrangea son col, puis il brossa ses cheveux hirsutes avec les mains, comme s'il se préparait pour un événement solennel. Et il savait que l'événement serait solennel. Son visiteur était un homme d'âge moyen, très élégant. Il entra sans se présenter dans la pièce. La forte odeur de cigares et d'alcool qui y régnait lui fit légèrement hausser les sourcils, puis il resta simplement debout, soutenant calmement le regard inquisiteur de Rey Diaz. « J'ai comme l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, » lâcha Rey Diaz en dévisageant son visiteur. « Ce n'est pas étonnant, monsieur Rey Diaz. Ils disent tous que je ressemble à Superman, celui des vieux films. »«
Et tu te prends vraiment pour Superman ?» cracha Rey Diaz.
Le colmateur s'assit sur le canapé, attrapa un cigare, en mordit le bout et commença à l'allumer.
« Si vous me posez cette question, c'est que vous savez déjà qui je suis. Je ne suis pas Superman, monsieur Rey Diaz, et vous non plus, »
dit le jeune homme, puis il avança d'un pas. Rey Diaz s'aperçut à travers la fumée de son cigare que l'homme qui se tenait devant lui était dans une position dominante. Alors il se leva.
« Colmateur Manuel Rey Diaz, » commença son visiteur, « je suis votre fissureur. »
Rey Diaz hocha la tête, le regard brumeux.
« Puis-je m'asseoir ?»
demanda le fissureur.
« Non, »
répondit Rey Diaz en lui crachant lentement sa fumée au visage.
« Ne soyez pas triste, »
fit le fissureur en lui adressant un sourire bienveillant.
« Je ne suis pas triste. »
La voix de Rey Diaz était froide comme la pierre. Le fissureur marcha jusqu'au mur, actionna un interrupteur et un ventilateur se mit en marche.
« Ne touche pas à ça !» l'avertit Rey Diaz. « Vous avez besoin d'un peu d'air frais, mais plus encore de lumière, de soleil, colmateur Rey Diaz. Grâce aux images que m'ont transmises les intellectrons, je connais bien cette chambre. Je vous ai souvent vu l'arpenter comme un animal sauvage en cage. Personne dans ce monde n'a passé autant de temps que moi à vous regarder. Durant tout ce temps, croyez-moi, je n'ai pas été beaucoup plus détendu que vous. »
Le fissureur regardait fixement Rey Diaz, aussi inexpressif qu'une statue de glace. Il continua à parler.
« Par comparaison avec Frédéric Taylor, vous êtes un brillant stratège, un homme digne d'être colmateur, et, je vous prie de me croire, je ne dis pas ça pour vous flatter. Je dois avouer que pendant un certain temps, disons à peu près 10 ans, vous m'avez mené en bateau. Votre obsession à vouloir fabriquer une super bombe nucléaire, une arme à l'efficacité pourtant très limitée dans une guerre spatiale, vous a permis de camoufler les véritables desseins de votre stratégie. Pendant longtemps, je ne suis pas arrivé à décrypter le moindre indice de votre plan. Je m'égarais dans le labyrinthe que vous aviez érigé. J'étais presque désespéré. »
Le fissureur avait les yeux fixés au plafond, visiblement encore hanté par le souvenir de ses heures douloureuses.
« Puis j'ai pensé à me renseigner sur la période ayant précédé votre mission de colmateur. Ça n'a pas été facile, car les intellectrons ne pouvaient m'être d'aucune aide. Comme vous le savez, le nombre d'intellectrons arrivés sur Terre était à cette époque restreint. En tant que dirigeant d'une nation d'Amérique du Sud, vous n'avez pas attiré leur attention. » Aussi, je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser des voies plus conventionnelles pour rechercher des informations. Cela m'a pris 3 ans. Dans ces documents, le nom d'un personnage a attiré mon attention. William Cosmo, que vous avez rencontré 3 fois en secret. Les intellectrons n'ayant pas enregistré le contenu de vos conversations, je ne les connaîtrai jamais. Cependant, un dirigeant d'un pays non développé rencontrant à 3 reprises un astrophysicien occidental était une chose peu ordinaire. Nous savons maintenant que vous vous prépariez déjà à devenir un colmateur. Vous éprouviez sans aucun doute de l'intérêt pour le travail du docteur Cosmo. Comment vous aviez eu vent du résultat de ces recherches, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais ayant vous-même reçu une éducation scientifique, vous cherchiez sans doute à mettre votre parcours au service de votre projet,
comme votre prédécesseur à la tête du Venezuela s'était de son côté évertué à mettre son expérience d'ingénieur au service du socialisme. C'était au passage l'une des raisons pour lesquelles il avait fait de vous son héritier. Toujours est-il que vous aviez les capacités et la sensibilité suffisantes pour deviner le potentiel des recherches de Cosmo. Au début de la crise trisolarienne, le docteur Cosmo et son équipe de recherche se sont pleinement investis dans l'étude de l'atmosphère du système stellaire de Trisolaris. Ils ont émis l'hypothèse que cette atmosphère avait été produite lors d'une collision d'une planète avec une des trois étoiles. Lors de cette collision, la planète avait brisé les couches externes de l'étoile, provoquant l'expulsion de matière solaire dans l'espace à l'origine de l'atmosphère. Les astres du système de Trisolaris n'obéissant à aucune règle, les trois étoiles arrivent parfois à se frôler. Dans cette situation, l'atmosphère d'une étoile se retrouve dispersée par la gravité d'une autre avant d'être renflouée par une éruption à la surface. Ces éruptions ne sont pas constantes, ce sont davantage comme des volcans qui éclatent brusquement. Cela explique les incessants processus de contraction et de dilatation de leurs atmosphères. Pour prouver cette hypothèse, Cosmo a essayé de trouver dans l'univers d'autres étoiles où de telles collisions auraient pu faire naître ce type d'atmosphère. Il a réussi dès l'an 3 de la crise. L'équipe de recherche du docteur Cosmo a en effet découvert un système planétaire 275E1 situé à 84 années-lumière du système solaire. Le télescope Hubble 2 n'étant pas encore opérationnel, ils ont utilisé la méthode dite des vitesses radiales. En observant et en calculant la fréquence d'oscillation et les variations du spectre de lumière émis par l'étoile, ils en ont déduit que la planète était très proche de son étoile mère. Au début, cette découverte n'a pas attiré l'attention, car la communauté des astronomes avait déjà découvert près de 200 systèmes planétaires à l'époque. Mais leur découverte suivante a provoqué par la suite une onde de choc. La distance, déjà proche, entre la planète et l'étoile mère ne cessait de se réduire, et la vitesse de ce rapprochement était exponentielle. L'humanité allait donc pour la première fois pouvoir observer une planète sombrant dans une étoile. Une année plus tard, ou bien devrait-on dire 84 ans avant son observation, le phénomène a eu lieu. Avec les conditions d'observation de l'époque, seule l'étude des vitesses radiales et des variations du spectre de lumière a permis de déterminer la collision. Mais une chose extraordinaire est survenue. Aux alentours de l'étoile est apparu un étrange flux de matière en forme de spirale. Cette spirale n'a cessé de s'élargir, comme un ressort détendu ayant l'étoile pour centre. Cosmo et ses collègues ont vite compris que ce flux de matière était éjecté à partir du point de chute de la planète. L'énorme masse rocheuse avait percuté la lointaine carapace extérieure du Soleil et avait eu pour conséquence de faire jaillir de la matière stellaire dans l'espace. Sous l'influence de la rotation de l'étoile sur elle-même, ce jet était devenu une spirale. Monsieur Rey Diaz, quelques données clés. L'étoile était une naine jaune de type G2, d'une magnitude absolue de 4,3 et d'un diamètre de 1 200 000 km, soit une étoile très similaire à notre Soleil. La masse terrestre de la planète était, elle, de 0,04, soit un peu plus petite que Mercure. Enfin, la spirale de matière stellaire provoquée par la collision avait un rayon de 3 unités astronomiques, soit davantage que la distance entre le Soleil et la ceinture d'astéroïdes. Et c'est grâce à cette découverte que j'ai trouvé une fissure où j'ai pu m'engouffrer pour deviner votre véritable stratégie. À présent, collimateur Rey Diaz, je vais donner mon explication de fissureur à votre grandiose projet. Supposons que vous soyez finalement en mesure d'obtenir le million, voire plus, de bombes à hydrogène stellaire que vous avez demandé. Comme vous l'avez promis au CDP, vous les installerez sur Mercure. En explosant à la surface de la planète, les bombes feront l'effet d'un super moteur capable de ralentir la vitesse de la planète. Mercure ne sera plus capable de rester en orbite basse et sombrera dans le Soleil.
Puis la scène grandiose s'étant produite dans le système 275E1 à 84 années-lumière d'une autre sera rejouée. Mercure trouera la zone convective du Soleil et, dans les profondeurs de la zone radiative, une grande quantité de matière solaire jaillira soudain. Grâce à la rotation du Soleil sur lui-même, cette matière formera une atmosphère en spirale, similaire à celle de 275E1. Contrairement au système de Trisolaris, notre Soleil est une étoile solitaire et il ne frôlera aucune autre étoile. Cette atmosphère continuera donc à s'épaissir sans connaître de perturbation jusqu'à devenir plus grosse que celle des étoiles trisolariennes. Ce phénomène a déjà été prouvé lors de l'observation de 275E1. La spirale de matière sera éjectée comme un ressort détendu et s'étendra rapidement vers l'extérieur. Son épaisseur dépassera ensuite l'orbite martienne, entraînant le début d'une extraordinaire réaction en chaîne. Tout d'abord, les trois planètes telluriques que sont Vénus, la Terre et Mars entreront dans l'atmosphère en spirale du Soleil et perdront elles aussi de la vitesse à cause de la friction atmosphérique. Elles se transformeront en trois gigantesques météorites qui finiront à leur tour par sombrer dans le Soleil. Mais avant cela, l'atmosphère terrestre s'échappera en raison de sa friction avec la matière solaire. De plus, les océans s'évaporeront. Ces deux phénomènes feront de la Terre une gigantesque comète dont la queue s'allongera peut-être pour faire un tour entier du Soleil. La surface de la Terre retrouvera son état magmatique originel et aucune créature vivante ne pourra survivre. Les collisions de Vénus, de la Terre et de Mars avec le Soleil auront pour effet d'augmenter considérablement les éjections de matière solaire dans l'espace, et l'on passera d'un seul flux de matière à quatre. En raison de la masse totale de ces trois planètes, 40 fois celle de Mercure, et de leurs plus hautes orbites, la vitesse avec laquelle elles entreront en collision avec le Soleil sera de loin plus rapide que pour Mercure. Chaque nouveau flux de matière sera éjecté avec une violence 10 fois ou même davantage supérieure à celle provoquée par la chute de Mercure. L'atmosphère en spirale s'étendra alors brusquement jusqu'à atteindre l'orbite de Jupiter. De par l'énorme masse de Jupiter, la décélération qu'entraînera la friction atmosphérique sera néanmoins beaucoup plus faible et les effets sur son orbite ne se manifesteront qu'au bout d'un certain temps. Cependant, tous les satellites de Jupiter connaîtront l'un des deux destins suivants. Premièrement, la friction les arrachera à Jupiter, leur faisant perdre leur vitesse et sombrer à leur tour dans le Soleil. Ou bien, autre possibilité, ils perdront leur vitesse en orbite de Jupiter et sombreront dans la géante gazeuse. La réaction en chaîne se poursuivra, Jupiter continuera à ralentir malgré tout sous l'effet de l'atmosphère en spirale, l'orbite de Jupiter s'affaissera lentement vers le Soleil, et consécutivement à cet affaissement, Jupiter entrera alors peu à peu dans une atmosphère de plus en plus dense, accentuant sa décélération et du même coup l'affaissement de son orbite. Ainsi Jupiter finira-t-elle, elle aussi, par sombrer dans le Soleil. Mais la masse de la planète étant 600 fois supérieure à la masse totale des quatre précédentes, cela engendrera, même avec le raisonnement le plus prudent, une éjection encore plus brutale de matière stellaire qui rendra l'atmosphère en spirale plus dense et fera chuter les températures déjà très basses d'Uranus et de Neptune. Mais il y a une autre conséquence encore plus vraisemblable, celle que la chute de la gigantesque Jupiter repousse le sommet de l'atmosphère en spirale jusqu'à l'orbite d'Uranus, voire celle de Neptune. Même si l'atmosphère sera très fine à cet endroit, la décélération que provoquera sa friction finira par plonger les deux planètes et tous leurs satellites dans le Soleil. Lorsque ce dernier maillon aura été relié à la chaîne, dans quel état se trouveront alors le Soleil et le système solaire après les collisions successives de 4 planètes telluriques et de 3 planètes géantes gazeuses? Personne n'est en mesure de le prédire, mais on peut être sûr d'une chose. Pour la vie et la civilisation, ce sera devenu un enfer encore plus rude que le monde de Trisolaris. Pour ce qui est des Trisolariens, avant même que leur planète ne soit engloutie par les 3 étoiles, ils auront perdu leur seul espoir de survie, car il n'existe pas de deuxième monde où ils pourraient migrer à temps. Aussi,
Après la civilisation humaine, celle de Trisolaris disparaîtra à jamais. Voilà quelle est votre stratégie. La mort des deux mondes. Quand tout sera prêt, quand toutes les bombes à hydrogène seront installées sur Mercure, vous menacerez Trisolaris et l'humanité vaincra. Ce que je viens de vous présenter est le résultat de plusieurs années de travail que moi, votre fissureur, j'ai effectué. Je n'attends de votre part aucun avis ni aucune appréciation, car nous savons tous deux que tout cela est vrai. Durant tout le récit du fissureur, Rey Diaz avait gardé le silence. Son cigare était presque entièrement consumé et il n'arrêtait pas de le faire tourner comme s'il voulait jouir de sa dernière lueur. Le fissureur s'assit dans le canapé où était déjà enfoncé Rey Diaz et lâcha avec le ton admiratif d'un professeur félicitant un élève pour son devoir. « Monsieur Rey Diaz, comme je vous l'ai dit, vous êtes un stratège hors pair. Du moins, vous avez fait preuve de facultés remarquables dans l'élaboration et la mise en application de votre plan. Tout d'abord, vous avez su tirer parti de votre passé de dirigeant du Venezuela. Tout le monde a encore aujourd'hui en tête les humiliations que votre pays et vous-même avez dû subir lors du développement national de l'énergie nucléaire. » Votre regard sombre, ce jour où l'on vous a forcé à démanteler vos installations nucléaires de Rénoch, est encore dans toutes les mémoires. Avec talent, vous vous êtes servi de cette supposée obsession pour les armes nucléaires que vous prêtait le monde entier pour réduire, voire éliminer, tous les doutes que pouvait susciter votre projet. Mais bien d'autres détails de la mise en œuvre de votre plan ont révélé votre ingéniosité. Je ne citerai ici qu'un exemple concernant les essais de la bombe à hydrogène stellaire sur Mercure. Vous avez toujours eu l'intention de faire exploser les bombes à la surface pour éjecter de la roche dans l'atmosphère, mais vous avez insisté auprès du CDP pour forer des puits souterrains. Une épatante manœuvre, intelligente et pour le long terme, vous aviez bien su saisir quel serait le degré de tolérance des représentants du CDP à l'égard de ce projet. La maîtrise dont vous avez fait preuve est en tout point remarquable. Mais vous avez tout de même commis une grosse erreur. Pourquoi votre premier essai nucléaire devait-il forcément avoir lieu sur Mercure? Vous auriez eu tout le temps de le faire plus tard. Peut-être avez-vous été impatient, trop impatient de constater les effets de l'explosion de votre superbombe stellaire sur le sol de Mercure. Vous avez vu qu'une grande partie de la roche a été éjectée à la vitesse de libération, ce qui était probablement au-delà de ce que vous aviez prévu. Vous en avez été très satisfait, mais cela m'a fourni une dernière preuve pour confirmer mon hypothèse. En effet, monsieur Rey Diaz, malgré tout mon travail préliminaire, sans ce dernier élément, je n'aurais peut-être jamais été sûr de votre réelle intention stratégique. Ce projet était trop fou. Fou, mais monumental, et j'oserais même dire grandiose. Si la collision de Mercure avec le Soleil enclenche effectivement cette réaction en chaîne, ce sera la plus merveilleuse sonate ayant jamais retenti dans le système solaire. Dommage que les humains ne puissent jouir que du premier mouvement. Monsieur Rey Diaz, vous êtes un colmateur au tempérament divin. C'est un honneur d'avoir pu être votre fissureur. Le fissureur se leva et s'inclina très respectueusement devant Rey Diaz. Ce dernier ne regarda pas le fissureur. Il tira une bouffée et cracha un nuage de fumée blanche tout en continuant à examiner le bout de son cigare. « Bien, je vous poserai la même question que celle de Taylor à son fissureur. » Le fissureur la posa à sa place. « Si ce que j'ai dit est vrai, qu'arrivera-t-il ? » Rey Diaz hocha la tête en regardant l'extrémité lumineuse de son cigare. « Et ma réponse sera la même que pour le fissureur de Taylor. Les dieux n'en ont rien à faire. » Rey Diaz détourna les yeux de son cigare et interrogea du regard son fissureur sur ses intentions. « Derrière votre façade brutale, vous êtes vif d'esprit. Cependant, je crois que si l'on sonde les profondeurs de votre âme, on trouvera encore de la brutalité. » Vous êtes un homme brutal par nature, monsieur Rey Diaz, et cette brutalité se manifeste dans l'essence même de votre stratégie. C'est un plan cupide. L'humanité n'a pas la capacité de produire autant de bombes à hydrogène stellaire.
Même si toutes les ressources industrielles de la Terre y étaient consacrées, elle ne pourrait jamais qu'en produire un dixième. Et même un million de bombes serait insuffisante pour ralentir Mercure et la faire sombrer dans le Soleil. Vous avez lancé un projet irréalisable avec la rudesse d'un militaire, mais avec la minutie et la profondeur de vue d'un grand stratège. Vous avez avancé pas à pas, armé de votre ténacité. Mais Collmateur Ray Diaz, c'est une vraie tragédie.
Tandis qu'il fixait le fissureur, le regard de Ray Diaz s'emplit peu à peu d'une douceur impalpable. Les traits grossiers de son visage s'animèrent de crispations incontrôlées, s'intensifiant peu à peu jusqu'à l'explosion d'un rire dément qu'il ne pouvait plus contenir.
« Ha 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 !»
fit Ray Diaz en pointant le fissureur du doigt.
« Ha ha, Superman ! Ha 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 ! Je me souviens maintenant ce vieux Superman qui pouvait voler, qui pouvait inverser la rotation de la Terre, mais qui, sur son cheval, ha ha, mais qui s'est brisé le cou à cheval, ha 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 !»
C'est Christopher Reeve, l'acteur qui jouait Superman, qui s'est brisé le cou, rectifia calmement le fissureur.
« Crois-tu que ton destin sera meilleur que le sien ?»
Si je suis venu jusqu'ici, c'est que je ne me soucie désormais plus de mon destin. « J'ai eu une vie très remplie, » affirma le fissureur. « C'est plutôt à votre destin, Monsieur Ray Diaz, qu'il conviendrait de réfléchir. »
« Tu mourras le premier !»
asséna Ray Diaz un sourire sur le visage. Il pressa l'extrémité brûlante de son cigare entre les deux yeux du fissureur. Puis, alors que ce dernier tentait de se protéger avec les mains, Ray Diaz se saisit d'une sangle de ceinture militaire posée sur le canapé, s'en servit pour lui enserrer le cou et l'étrangla de toutes ses forces. Malgré son jeune âge, le fissureur ne pouvait rivaliser avec la force de Ray Diaz, qui parvint à le jeter sur le parquet. Ce dernier lui hurla dessus comme pris de folie.
« Je vais te briser le cou, sale bâtard! Tu t'es cru intelligent en venant jusqu'ici, pour qui t'es-tu pris, bâtard? Je vais te briser le cou !»
Il serrait fermement la sangle et frappait violemment la tête du fissureur sur le sol. Les dents de ce dernier résonnaient avec un bruit de « ca, ca » en heurtant le parquet. Lorsque les sentinelles à la porte entrèrent pour les séparer, le fissureur avait le visage déjà violet, une écume blanche sortait de sa bouche et ses yeux étaient aussi exorbités que ceux d'un poisson rouge. Saisi par la fureur, Ray Diaz se débattait tandis que les sentinelles essayaient de l'agripper. Il continuait à hurler.
« Brisez-lui le cou, pendez-le, écartelez-le, maintenant, ça fait partie du plan, bon sang, vous m'avez entendu, ça fait partie du plan !»
Mais les trois sentinelles n'obéirent pas à ses ordres. L'une d'entre elles empoignait fermement le collmateur, tandis que les deux autres transportaient à l'extérieur le fissureur qui respirait à nouveau.
« Tu ne perds rien pour attendre, bâtard, j'aurai ta peau !»
soupira longuement Ray Diaz en relâchant ses efforts pour tenter de s'extirper de l'étreinte de la sentinelle afin d'attaquer le fissureur à nouveau. En se retournant, le fissureur regarda par-dessus l'épaule d'une sentinelle. Le visage violet et gonflé, il esquissa un sourire. Il ouvrit une bouche à laquelle il manquait plusieurs dents et dit « J'ai eu une vie très remplie.